On continue notre belle petite étude que je vous disais tantôt sur le thème qu'on est en train de développer pour apprendre à connaître la révélation de Dieu. Comment Dieu s'est révélé depuis Adam et Ève, là. Parce que Dieu ne voulait pas laisser ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui, il ne voulait pas les laisser dans l'ignorance. Dieu a commencé à parler à ceux qui s'approchaient de lui. Déjà, depuis le début, on a vu qu'il y en a qui commençaient à invoquer l'Éternel, puis il y en a d'autres qui marchaient avec Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu, connaissaient la volonté de Dieu dans leur vie, puis ils obéissaient à Dieu. La Bible appelle ça, ils marchaient avec Dieu, puis Dieu les bénissait, Dieu faisait des choses spéciales. On continue à regarder les hommes de Dieu de cette époque-là, qui sont en fin de compte des prophètes, parce que quand quelqu'un reçoit les paroles de Dieu, puis qui annonce ces paroles-là, puis aujourd'hui on les voit écrits dans les livres, c'est à des prophètes de Dieu, c'est à des gens qu'on va voir entrer dans le royaume. C'est ça que Jésus a dit, vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, il laisse pas de côté ceux qui y aiment Dieu. Si t'aimes Dieu, puis tu marches avec Dieu, Dieu te laissera pas là. Il va nous amener dans son royaume éternel. On va continuer à regarder certaines révélations de Dieu. Dieu s'est révélé pour dire au monde ce que lui aime, ce que lui veut, ce que lui s'attend des hommes. Puis il a commencé à révéler aussi depuis le début la venue de son Fils. Ça, c'est deux sujets de révélation qu'on voit depuis le début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une compilation de ce que Dieu a déjà révélé. Puis toute cette compilation-là, c'est écrit dans notre Bible. C'est là-dedans, en l'étudiant, en scrutant, qu'on découvre de plus en plus ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui. Le message aujourd'hui, c'est ça commence avec Noé. On a fini avec Noé la dernière réunion en disant que dans le temps de Noé, il y a eu un jugement grave, mais il y a juste Noé qui était sauvé parce que lui, il aimait Dieu, puis il était épargné du jugement. Puis il marchait avec Dieu, puis Dieu a donné un projet à bâtir une super arche, puis là, il y a eu un déluge. Puis là, il était le seul survivant parce qu'il marchait avec Dieu. On voit là-dedans le titre de mon message et le rapport à ça. Dieu a fait un nouveau départ avec une famille qui aimait Dieu. Noé. La famille de Noé servait et obéissait à Dieu, puis elle trouva grâce devant Dieu. Vous savez, on parle dans le Nouveau Testament de la grâce. La grâce, là, on pense, ah, la grâce frappe quelqu'un même s'il ne veut pas. Non, c'est pas biblique, ça. La grâce est pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui croient en Dieu, puis ceux qui marchent avec Dieu. Il y a des conditions. La grâce est conditionnelle. Tout le long, Jésus, il parlait à tout le monde, il parle à tout le monde, il veut l'adresser à tout le monde, son message, mais il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. C'est ça le chemin de la grâce. Faut pas penser qu'on a une grâce, puis que là on reste chez nous, puis qu'on fait plus rien. C'est pas aimer Dieu, ça. La grâce, c'est, ça coûte quelque chose, puis est conditionnelle. C'est le même depuis le début de la création. Noé, il n'a pas été gracié à cause qu'il s'appelait Noé. Il n'a pas été gracié parce qu'il avait des beaux enfants. Il pouvait avoir les plus pires enfants du monde, puis la grâce est tombée sur cette famille-là parce que Noé aimait Dieu. Noé aimait Dieu, puis Noé obéissait à Dieu. Dans Genèse 6, le verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis là, il dit, voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je vous l'ai expliqué la dernière fois en parlant de quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Pour marcher avec quelqu'un, faut que tu le connaisses. Tu le connais pas. Tu es ignorant de qui existe, tu es ignorant de ce qu'il pense, de ce qu'il veut, tu le connais pas. Mais quand tu connais quelqu'un, là, tu peux commencer à l'écouter, tu entends ses idées, tu entends ce qu'il a à dire, puis là, tu l'aimes. Tu aimes ce qu'il te dit, tu aimes, puis tu veux aussi marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est comme nous. Marcher avec Jésus, c'est de le connaître, puis d'obéir, de le suivre. C'est ça, marcher avec Dieu. Puis c'est de même que Noé faisait. Puis c'est là que ça dit qu'il a trouvé grâce. Il n'a pas trouvé grâce, puis après qu'il marchait, c'était le contraire. Il marchait parce qu'il aimait Dieu, puis il connaissait Dieu, puis il était intègre. Puis c'est là qu'il a trouvé grâce, puis qu'il était épargné, puis tout le reste du monde qui avait s'était éloigné de Dieu, puis qui marchait dans l'ignorance des choses de Dieu, ont péri. Dieu, il parlait à Noé. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait trouver surprenant, que Dieu parle à ceux qui l'aiment. C'est pas surprenant. Dans Genèse 9-8, ça dit « Dieu parla encore à Noé ». Ça veut dire, dans sa marche avec Dieu, il marchait avec Dieu, il parla encore, ça veut dire qu'il avait déjà parlé. Puis Noé est au courant de ce que Dieu faisait, puis ce que Dieu disait, puis ses plans, puis ses projets, puis il continuait à y en parler encore. Puis Dieu, il voulait l'emmener parce qu'il entendait la voix de Dieu. On voit que cette idée-là, c'est pas nouveau. Oui, nous autres, on dit la même chose parce que c'est comme la relation d'un disciple avec Jésus. Jésus, dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Je les connais et elles me suivent. Une vraie brebis du Seigneur entend le Seigneur puis suit le Seigneur. C'est ça que je vous dis. Il y a une marche avec le Seigneur. Dans ce temps-là, c'était la même chose. Les gens marchaient avec Dieu. Je parle de ceux qui sont sauvés. Je parle pas de ceux qui sont dans les ténèbres puis qui sont dans égarés. Des vrais disciples du Seigneur, ils entendent la voix du Seigneur. Il entend Dieu lui parler. Vous allez me demander où c'est qu'on l'entend. Bien, Dieu parle de différentes façons, mais comme un exemple entre autres, il est en train de vous parler. Pendant qu'on lit les versets, il est en train de nous parler. Mais on peut dire, oh, c'est Daniel qui parle, c'est plate, c'est monotone, puis moi je suis tanné de l'écouter. Non, c'est pas ça. Écoutez les versets, là, Dieu est en train de vous parler, puis recevez ces versets-là. Dieu dit, il va écrire ses paroles dans nos cœurs. Comment est-ce qu'il fait pour les écrire? C'est pour qu'il nous parle. Comment est-ce qu'il fait? C'est quand qu'on lit la Bible, quand qu'on prie puis qu'on écoute, quand qu'on est en train d'écouter ce que Dieu ou le peuple de Dieu dit, c'est Dieu parle de toutes les façons. Il y a une étude que je suis en train de finir dans mes émissions de radio, justement. Je parle là de ça, des différentes manières que Dieu nous parle. Dieu, il y a plein de manières qu'il parle aux hommes. Mais les ceux qui aiment Dieu reconnaissent la voix de Dieu, puis ils marchent avec Dieu. Ils aiment entendre des choses qui viennent de Dieu, puis ils veulent obéir à ce qui est écrit. On parlait de ça tantôt, l'obéissance. T'entends, tu connais, puis tu marches avec. Puis c'est ça le chemin de tout disciple, et même encore aujourd'hui. Dieu, il est venu nous parler par Jésus. Il est venu en forme humaine, puis il nous a tout mis par écrit. On l'a dans nos mains, les paroles de Dieu. Et Jésus a parlé. Il a parlé par les prophètes, puis il nous a parlé par le Fils. Puis maintenant, libre à nous de tomber en amour avec ce qu'il a dit, puis de commencer à marcher avec lui. Amen. Noé connaissait les enseignements de Dieu contenus qui contiennent les lois spirituelles que Dieu avait déjà révélées depuis le début de la création. Quand on dit Noé marchait avec Dieu, il marchait dans quelque chose, là. C'était pas juste marcher à l'aveuglette, comme Paul dit, battant en l'air. On s'en va n'importe comment parce qu'on sait pas où qu'on s'en va. tu te bats dans le combat spirituel à l'aveuglette, tu ne sais pas sur quoi frapper. Bien, la vie à l'aventure, sans savoir où ça s'en va, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, tu sais c'est quoi la vie chrétienne. Quand tu lis la Bible, tu apprends qu'il y a un mode de vie, il y a des choses que tu dois penser ou pas penser, des choses que tu dois dire, que tu dois pas dire, des choses que tu devras dire parce qu'on est appelé à en parler. Il y a des choses que tu... Il y a une conduite qu'on doit faire. On est des gens qui viennent rencontrer Dieu, qu'on veut louer Dieu, prier Dieu, s'approcher de Dieu. Tout ça, là, ce qu'on fait, c'est pour grandir dans le Seigneur. C'est ça, la vie chrétienne. Puis il y a des lois spirituelles qui sont des fondements de ce qu'on devrait vivre en tant que chrétien. Mais dans ce temps-là, il y en avait, puis Noé marchait là-dedans. Toutes les paroles que Dieu a données comme révélation à partir d'Adam et Ève, là, toutes les paroles, puis l'histoire, puis un engendre à l'autre, tout ce que vous voyez là, ils savaient tout ça. S'il n'y aurait pas su ça, on ne l'aurait pas encore dans nos mains aujourd'hui. C'est à travers de ces hommes-là que le message a été transmis. Je vous l'ai dit un peu la semaine passée, le message a été transmis soit verbalement ou soit par écrit, par une manière qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais c'était transmis. Noé savait c'est à quoi que Dieu avait révélé. Que ça soit au niveau que le septième jour, c'est un jour saint. C'est pas Noé qui a inventé ça. C'est Dieu qui l'a dit au début, puis lui, il savait. On le voit dans Genèse 2, 3. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Celui qui écrit ça, il écrit la parole de Dieu. Noé savait tout ça. Ou que ce soit les lois sur le mariage, comme que c'est écrit dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est une règle de Dieu donnée à tous les humains depuis le début de la création. Puis Noé, il savait ces lois-là. Puis je suis sûr qu'il y avait d'autres principes qu'il connaissait, puis qu'on n'a pas par écrit aujourd'hui. Des choses qu'on sait, ça fait partie de l'enseignement de la volonté de Dieu. Dieu a toujours été pareil, puis il utilise encore cette idée-là du mariage dans le Nouveau Testament. Il n'a jamais changé d'idée sur ces affaires-là. Puis une autre règle encore plus forte sur le mariage, là, que Noé a respecté, mais que le reste du monde ne respectait plus avant le déluge, puis Dieu a détruit la planète à cause de ça. La loi sur le mariage, qu'au niveau que les fils de Dieu devaient se séparer avec les filles des hommes. Dans Genèse 6, le verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, puis en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. L'homme voulait faire sa volonté plutôt qu'au obéir à la volonté de Dieu. Cette pensée-là, tout le monde la savait, mais il obéissait pas. Ça a fait que l'esprit de Dieu s'est retiré, puis il a dit, ces jours ne seront que de 120 ans. Il a décrété la destruction. Le jugement a été donné, parce que toute chair a corrompu sa voix. Tout le monde avait des pensées qui se dirigeaient uniquement vers le mal. Il y a juste Noé qui est intègre, qui marchait dans les principes que Dieu a établis. Puis il était intègre, ça veut dire intégré. Ça veut dire qu'il marchait conformément à ce que Dieu demandait. Lui est épargné, puis les autres ont tous péri. C'est la même chose pour aujourd'hui. Jésus le dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Les mêmes textes, les mêmes pensées, les mêmes idées ressortent dans le Nouveau Testament comme dans le temps de ce temps-là. C'est là qu'on voit que les pensées de la Bible depuis le début, ça se tient. C'est le même esprit qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui avait un plan de nous révéler sa volonté. Puis, à travers les siècles, Dieu s'est efforcé à trouver des hommes qui étaient pour parler en son nom, puis de révéler aux autres c'est quoi que Dieu pense, pour que le monde s'ajuste. Mais les hommes, c'est pas tout le monde qui veut suivre Dieu. Noé a trouvé grâce, il connaissait le plan de Dieu, puis il marchait dans les voies de Dieu, puis il était épargné. Puis il dit que quand le Fils de l'homme va revenir, ça va être pareil comme au temps de Noé. Jésus l'a dit, ça va être pareil. Noé connaissait aussi les détails concernant les animaux purs et les animaux impurs. Nous, on a appris ça par la loi de Moïse. Quel animal qui était pur, quel qui était impur. Noé, il était pas sous la loi, puis il connaissait déjà les différences. Dieu y avait déjà révélé, pas juste à lui, aux hommes de son temps. C'est des choses que Dieu savait, Dieu avait dit, dans ce temps-là, avant le déluge, puis qu'on retrouve ces idées-là par après, dans les autres révélations plus tard. C'était juste pour dire comment Dieu s'est toujours révélé sur tout ce qu'il voulait qu'on sache. Si ça nous a été écrit là, c'est parce qu'il y avait des raisons. Dieu voulait qu'on sache qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puis les enseignements, c'est les mêmes depuis le début, puis que les gens qui ont négligé ces affaires-là, mais ils ont subi le jugement, puis il y a juste Noé qui est intègre. Regardez bien à propos des animaux pur et impur. Dieu y a dit dans Genèse 8, le verset 20, et dit Noé bâtit un autel. Non, l'autre verset dans Genèse 7, excusez-moi. Genèse 7. L'Éternel dit à Noé. On voit que l'Éternel parlait directement à Noé. Il disait des idées, là, quelque chose qui se comprend. C'était pas juste des idées comme des affaires que tu n'arrives pas à comprendre. Il ne parlait pas en parabole. Il parlait direct avec les vraies affaires. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Dans sa parole, on retrouve des paroles directes. Il dit, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » On voit encore dans un autre verset qui confirme comment Dieu appréciait Noé dans sa marche avec lui. Et il dit, tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui sont pas purs, le mâle et la femelle. Ça, on parle quand il y a tout eu le rassemblement des animaux pour les faire rentrer dans l'arche. Dieu a dit, les animaux purs, tu vas en prendre 7 paires de chaque sorte d'animaux purs, pour les faire entrer dans l'arche, puis les animaux impurs, il n'y avait qu'une seule paire. Dieu voulait épargner encore plus d'animaux purs que d'animaux impurs, mais tout ce qui est rentré a été épargné. Il y avait une raison, mais moi, c'est le principe que Noé savait la différence sans qu'on voit que Dieu a expliqué à Noé, voici une liste de tous les animaux purs. On l'a pas, cette liste-là. Noé, il savait tout. Ça veut dire que Dieu se révélait sur bien des choses qu'on n'a pas encore dans notre compréhension. Sur des choses que, dans ce temps-là, il fallait qu'il pense comme ça. Puis Dieu, tant qu'il sait qu'il faut qu'on pense d'une façon, il donne tous les détails à ceux qui écoutent. La même chose pour aujourd'hui. Dieu, il se révèle à ceux qui écoutent, à ceux qui veulent apprendre, à ceux qui cherchent. Ceux qui cherchent, ils trouvent. Tiens, on mène là-dessus. Ceux qui cherchent, trouvent. On ouvre à celui qui frappe. Dieu, il se révèle. Dieu, il montre son plan. Il montre à ses serviteurs les choses qu'il est en train de préparer. Il veut qu'on sache qu'est-ce qu'il va faire. Il veut qu'on sache quoi faire. Il veut qu'on sache comment même, pas améliorer, mais changer de direction. Faire autre chose, s'il y a quoi qui marche pas dans notre vie qui est conforme à la volonté de Dieu, il va nous le montrer pour qu'on, si on écoute sa voix, il va nous le montrer pour qu'on change d'orientation. Parce qu'il veut qu'on se ramasse le plus de récompenses possible pour arriver à l'autre bord. Noé aussi, ça dit qu'il connaissait aussi ce que Dieu aimait, ah oui, Dieu, ben là, j'ai pas mes lunettes, mais on dirait que la feuille est plus embrouillée quand même. Noé connaissait aussi tout ce que Dieu aimait. Pas juste de ce que Dieu voulait que Noé fasse, ce que Dieu aimait, ce que Dieu trouvait agréable. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, puis ce qui est parfait. Tu as une évolution dans ta compréhension de ce que Dieu s'attend de nous. Noé savait ce qui était agréable à Dieu. Ce que Dieu aimait comme sacrifice. Puis quand il est sorti de l'arche, Noé, il offrit à Dieu un sacrifice, puis ça, c'est agréable à Dieu. Alors, regardez bien dans Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Il savait que Dieu, c'est les bêtes pures qu'il va avoir en sacrifice. Il a pris de toutes les bêtes pures, puis tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Pourquoi que c'est écrit ça? Parce que Dieu était content. Pourquoi Dieu était content? Parce que Noé savait que c'est ça que Dieu aimait. Dieu l'avait montré à Caïn et à Abel. Il y en a un qui a offert un sacrifice d'un animal, d'un agneau, qui est un animal pur. Dieu a dit, c'est ça que je veux comme sacrifice. Dieu trouvait ça agréable. Lui, il savait. Il en a offert des animaux purs en sacrifice. Pas des animaux impurs. Il savait c'était quoi impur. Puis, il savait ce que Dieu aimait. Puis, il a offert ça en sacrifice. Tiens, Seigneur, je suis reconnaissant que tu nous as sauvé la vie à moi, à tous les animaux, ok? Je t'offre ce sacrifice-là. Dieu a senti ça, là. Puis ça, il a trouvé ça agréable. Il savait quoi faire pour faire plaisir à Dieu. C'est la même affaire pour nous. Il faut marcher d'une manière qui est agréable à Dieu. On ne sait-tu quoi faire, ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, là on sait qu'est-ce que Dieu a pensé, puis on sait aujourd'hui ce que Dieu a pensé dans son cœur, puisqu'ils l'ont écrit. Dieu a révélé son cœur à son enfant Noé. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. On voit là-dedans le cœur de Dieu qui a dit, non, là j'ai fait ça, là, mais je m'aperçois que Son méchant de la jeunesse, je refrapperai plus la terre comme que je viens de faire là. Mais moi, ce que je veux retenir là-dedans, c'est que Noé savait ce qui était agréable, puis s'est arrangé de faire de quoi qui faisait plaisir à Dieu. Puis ça a fait que Dieu il a eu un moment agréable suite à tout le jugement qu'il y a eu. Ça me fait penser comment est-ce qu'on devrait rechercher en tant que chrétien des choses, à marcher d'une manière qui est agréable à Dieu, faire plaisir à Dieu. En réalité, là, comme je l'ai mentionné tantôt, Noé connaissait tout ce que Dieu avait révélé et l'histoire du monde depuis Adam et Ève. Il savait tout, puis tout était resté comme par écrit ou pour le transmettre des générations futures. Puis ça dit aussi que ce que je vous rajoute là-dessus, il fut déclaré juste avant que Dieu lui parle de bâtir l'arche. Ça veut dire qu'ils savaient tout comment est-ce qu'un enfant de Dieu devait marcher, puis il marchait en enfant de Dieu pour faire plaisir à Dieu, puis ça, c'était agréable à Dieu, puis c'est de même qu'il a eu sa bénédiction. Ça devrait nous parler pour nous dire à nous qu'on est chrétiens, faut que je connaisse ce que Dieu aime, puis je marche dans ce que Dieu aime, puis ça, Dieu va trouver ça agréable. On va sentir bon à ses narines. C'est sur cette base de ce que Dieu a révélé dans la Genèse que Noé fut déclaré juste et que le reste du monde fut détruit au déluge. Par la suite du déluge, pendant des siècles suivants, les hommes se multiplièrent sur la terre. Même si c'était tous des descendants de Noé, ils ne marchaient pas tous dans les voies de Noé, le grand-père ou leurs arrière-grands-pères. Il y a toujours eu des gens, ça dit que les méchants continuèrent à faire leur méchanceté des descendants. Les méchants continuaient à faire leur méchanceté, mais il y a toujours eu des gens qui connaissaient Dieu, puis qui avaient une crainte de Dieu, puis qui recevaient, puis qui gardaient les paroles de Dieu. Même s'il y a des bouts, quand on lit, on voit pas nécessairement des liens entre Abraham et les autres avant. On voit pas tous les descendants qui ont pu marcher avec Dieu, puis de voir leur vie, puis de voir leur témoignage de vie qui était des enfants de Dieu. On voit pas tout ça. Il y a bien des affaires qu'on sait pas, mais il y a toujours eu quelqu'un qui croyait puis qui gardait les paroles de Dieu, qui a gardé aussi l'histoire de Noé, puis ce qui s'est passé par la suite, jusqu'à temps qu'on arrive à Abraham. Dieu s'est toujours révélé, même à du monde qui n'était pas nécessairement dans cette lignée-là de descendants, parce qu'il y a eu plein de méchants, puis de temps en temps, on voit un témoignage d'un qui était juste, mais parmi, il y en a qui ont marché d'une manière juste, qu'on n'a pas le témoignage dans la Bible. Il y en a toujours eu. Puis il y en a encore des gens qui marchent d'une manière qui est agréable à Dieu, puis qui sont pas écrits dans la Bible. Il n'y a aucun de nos noms qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'en cours du monde qui croit en Dieu, qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, mais le nom n'est pas nécessairement écrit dans la Bible. Il y en a eu de même aussi dans ce temps-là. C'est important qu'il y ait toujours une lignée qui croyait en Dieu puis qui transportait le message des révélations de Dieu de génération en génération. Dieu a toujours veillé à ça, même avant Abraham puis la descendance du peuple juif. Abraham, lui, il marchait avec Dieu, il aimait Dieu, il servait Dieu, il entendait la voix de Dieu. Dieu, il parlait. On voit pas tous les détails d'avant sa vie. On voit juste quelques idées quand il a reçu l'appel là, de s'en aller puis d'aller dans la terre promise. Mais on voit pas ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Mais il était un des pionniers de la lignée de ceux qui marchent par la foi. C'est même, il était appelé le père de la foi. Lui, il a reçu une grande promesse parce que Dieu, il a tout de même aimé sa vie puis ce qu'il faisait. Il a donné une promesse que ça serait dans sa descendance à lui que viendrait le Messie, la promesse du Messie qui était annoncée à Adam et Ève, celui qui était pour écraser la tête du serpent. Dans Genèse 22, 18, « Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Il a poursu la promesse parce que c'est un gars défroqué. Il a reçu la promesse parce qu'il obéissait à la voix de Dieu. C'est un gars qui était agréable à Dieu. Il marchait avec Dieu, on va le voir dans l'autre verset. Puis ça, c'est bien important de comprendre. C'est pas juste dire, je crois en Dieu, je crois en Jésus, puis là, que tout est accompli. Non, ça, c'est juste le départ de ta nouvelle vie, de marcher avec Dieu. Le Seigneur il a confirmé plusieurs fois qu'Abraham plaisait à Dieu, puis qu'il est devenu le père de la foi, puis le père de la lignée messianique. Parce que tout le monde se disait, oh ben moi, je suis un fils d'Abraham. Jésus dit, c'est pas tous ceux qui sont descendants d'Abraham qui sont fils d'Abraham. C'est lui était le père de la foi, mais pour être appelé un fils d'Abraham, il fallait que tu marches dans la foi. Dans les traces d'Abraham. Regardez qu'est-ce qui est dit aussi dans Genèse 26, le verset 4. Dieu a répété encore la promesse du Messie dans sa lignée. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Il y avait des bénédictions physiques sur la terre pour obtenir la terre de Canaan. Puis là, il répète encore, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Là, ça visait une prophétie qui parlait du Messie qui était pour venir, que toutes les nations de la terre seraient bénies en dans ce Messie-là. Puis là, au verset 5, ça dit, pourquoi qu'Abraham il a eu cette promesse-là? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ouch! Il n'est pas le père de la foi juste parce qu'il savait que Dieu était là. Il était le père de la foi parce qu'il marchait dans l'obéissance des révélations de Dieu. Il voulait plaire à Dieu dans sa vie. Il entendait quelque chose de la part de Dieu. Oui, ça part, il devait avoir les écrits de tout ce qui était dit du début. Il marchait dans ce que Dieu aimait. Même son isopo par écrit, cette liste des lois-là, dans le temps d'Abraham, on ne parle pas du peuple juif, on parle des lois du temps d'Abraham qui datent des temps anciens. Même si on n'a pas la liste, là, ça dit qu'il y avait des entendre sa voix, entendre ses ordres, entendre ses commandements, entendre ses statuts, puis entendre ses lois. Il y avait des lois. Dieu, là, quand il déclare une parole comme un exemple, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, puis les deux formeront qu'une seule chair. C'est une loi, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est la voix de Dieu qui a dit ça, là. Dieu veut qu'on marche comme cela. Il y a pas, c'est pas juste une suggestion, c'est une parole à obéir. Tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, là, de ce que Jésus a dit, il dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Dans un autre verset, il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est pas juste le commandement de l'amour, ça, c'est le résumé. Mais tous les petits détails que tu lis dans la Bible, là, c'est tous des préceptes, des lois, des manières. C'est la loi de Christ. Ça fait partie de la loi de Christ, du mode de vie d'un follower de Jésus. On n'est pas juste, on ne fait pas juste croire en Jésus. Un follower, c'est suivre Jésus, les suiveurs du Christ. Dans les révélations prophétiques, quand on parle de révélations prophétiques, c'est des révélations qui annoncent des choses du futur. Abraham, il y en a eu une prophétie qui nous est écrite dans la Bible à propos du Messie. Abraham a prophétisé annonçant le Messie, que Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Si on voit ça, quand Abraham, il s'en va sur la montagne, Dieu lui a dit, va offrir ton fils en sacrifice sur la montagne. Abraham ramène son fils, puis son fils, il avait à peu près 15 ans. Il amène son fils, il amène son bois, il amène tout son stock, il s'en va à sa montagne. Puis là, son fils, il dit, on a le feu, on a le bois, mais où est l'agneau? Il n'avait pas amené d'agneau à faire un sacrifice. Son fils ne savait pas que son père voulait obéir à Dieu puis aller offrir son fils en sacrifice. Mais il s'est posé la question, où est-ce qui est l'agneau? Puis Abraham lui a répondu dans Genèse 22:8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oui, au point de vue humain, c'est vrai que c'est quand ils sont arrivés ces lieux, il y avait un bélier pogné dans broussailles, il était, puis là, Dieu a pourvu. Mais c'était une phrase prophétique qui annonçait la venue de l'agneau de Dieu qui était pour ôter le péché du monde. Des fois, les phrases sont dites, là, mais Dieu avait un message à donner dans ça pour annoncer, pour ceux qui ont le discernement pour voir ce que Dieu voudrait dire à travers les paroles, de ce que les versets là, dans l'Ancien, il y en a plein qui nous parlent de Jésus. Puis on ne le sait même pas parce que c'est écrit à travers d'autres choses. Ce C'est une parole qui a été confirmée dans le Nouveau Testament que Dieu a pourvu à l'agneau. C'est ça que Jean-Baptiste dit dans Jean 1, 29. Le lendemain, Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus, c'est l'agneau que Dieu a pourvu pour l'Holocauste. Voyez-vous, c'était une prophétie, ça s'est accompli. C'était des messages que Dieu fait à ses disciples pour dire, « Regarde, je suis encore bien en contrôle de tout, puis je vous parle à travers de là, à travers d'une autre parole. » pour annoncer la venue du Messie. Ça l'encourage pour ceux. Je ne peux pas affirmer que tout le monde a compris ça dans ce temps-là, mais aujourd'hui, il y a plein de monde qui l'ont compris puis qui savent que c'est à Dieu qui nous parlait. À nous qui, à la fin des temps, les connaissances sont ouvertes, les révélations qui sont ouvertes, comme Daniel le dit. Merci Seigneur. À la même époque d'Abraham, on va voir encore comment Dieu travaille pour ses lignées d'hommes de foi, de prophètes qui étaient là dans ces époques-là, puis ce n'est pas nécessairement des descendants d'Abraham. Dans la même époque, il y avait le sacrificateur Melchisédek, qui est il n'était pas de la famille d'Abraham du tout, il n'était pas un descendant du peuple juif, il existait dans la même époque qu'Abraham. C'est un païen, autrement dit. Si on dit qu'Abraham, c'est un juif, mais c'est pas réellement un juif. Ça a commencé à son petit-fils Jacob d'être juif. Mais Abraham est le père des juifs. Il était même pas dans ce lignée-là, Melchisédek. C'est un gars qui vivait dans la terre de Canaan, dans une terre qui déplaisait à Dieu. Que Dieu était pour juger tous les habitants de Canaan, pour leur enlever le terrain puis le donner au peuple juif, parce que le peuple de Canaan, c'était des gens qui vivaient dans rébellion contre Dieu, puis ils vivaient dans le péché, au bout. Abraham, dans cette période-là, si on a regardé l'histoire, on sait que son neveu, Lot, il y a eu des armées de ces peuples-là qui sont venus pour pouvoir attaquer Sodome, Gomorre, Lot, il restait là, lui. Il a perdu tout son stock. Les bandits, les cinq rois qui se sont assemblés pour venir attaquer, ils ont pillé les villes, ils sont partis avec les femmes puis le stock. Quand Abraham ça, lui est parti. Par la foi, il y a eu comme une conviction qu'il fallait qu'il y aille pour aller régler ça, ce problème-là. Il partit avec son armée, puis il y avait assez de soldats qu'ils ont gagné la bataille. Puis il a ramené tout le stock. Puis là, il a redonné le stock, mais c'est là qu'il a rencontré Melchisédek, qui était le sacrificateur, un sacrificateur de Dieu, mais sans connaître ce qu'Abraham a pouvoir avoir comme révélation, c'était un autre gars qui connaissait les révélations de Dieu, qui vivait complètement dans une autre lignée de famille, parmi une génération de pervers, mais lui, c'est un sacrificateur de Dieu dans la ville de Salem, qui est devenue Jérusalem par la suite. Il était le roi de Salem, puis roi, qui veut dire roi de paix, puis ça dit que Melchisédek, c'est roi de justice, puis son nom, puis il était roi de Salem, de la ville de Salem, qui est roi de paix. Imaginez, c'est pas des coïncidences, cela, c'était le plan de Dieu. Puis là, ça nous dit qu'Abraham, qui est revenu, il a rencontré ce gars-là qui connaissait Dieu, qui servait Dieu, puis il a béni Abraham. Dans Genèse 14, 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Le peuple juif n'existait même pas encore, puis les lignées de sacrificateurs à travers la famille de Lévi, puis tout ça, ça n'existait pas encore. Dieu avait déjà des gens qui offraient des sacrifices à Dieu, qui connaissaient Dieu, qui connaissaient les animaux peu, puis un peu, puis ils savaient la parole de Dieu, puis ils servaient Dieu. Ça, je vous disais, des fois, on ne sait pas comment ça se fait qu'un tel, que lui, marche avec Dieu. On ne sait pas toute l'histoire, mais Dieu s'est arrangé que sa révélation se répande partout dans ce temps-là. Fait que Lui, au verset 19, ça dit, il bénit Abraham, puis il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il connaissait Dieu, ce Melchisédek-là. Puis Abraham a fait un acte pour remercier ce sacrificateur-là, pour le bénir. Il a fait un acte qui est resté dans tous les temps. C'était quelque chose que lui connaissait, Abraham, que sûrement c'était révélé avant, mais ça n'en parle pas avant. Que par la suite, ça s'est continué à se faire, ce que Abraham a fait. Ça dit, Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. La dîme, c'est un dixième de tout ce qu'il venait de tout ce qu'il possédait. Ça fait partie des révélations de Dieu de donner une part de nos biens. J'espère que je vous surprends pas. C'est pas quelque chose qu'on vienne d'apprendre. Ça existe depuis le début de la création, qui était pratiqué par les gens qui croyaient en Dieu puis qui marchaient avec Dieu. Abraham l'a fait. Puis il a donné la dîme de tout ce qu'il possédait. Dans Genèse 14:20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Puis là, Abraham lui donna la dîme de tout. Ça fait partie des révélations de Dieu. Par la suite, tu lis dans l'histoire, Jacob, qui était Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob. Jacob, il a changé de nom pour Israël. C'est le père de 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Jacob a reçu aussi des révélations du Dieu très haut. Puis lui aussi, il s'est engagé puis a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Dans Genèse 28, le verset 22, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Fait qu'avant même la loi, là, on parle pas de loi puis d'obligation de la loi, on parle de monde qui connaissait Dieu, puis à cause de leur amour pour Dieu, s'engageait à donner la dîme, un dixième de toutes leurs revenus. Pour plaire à Dieu, parce que ça faisait partie de la révélation de Dieu. Jacob, celui qu'on voit qui a donné la dîme de tout de lui aussi, Jacob, le père du peuple juif, a une prophétie lui aussi. Jacob, il a prophétisé la venue du Messie dans le monde. Dans Genèse 49, le verset 10. Et dans sa prophétie, ça dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à vienne le Shiloh. » Ça veut dire le Pacifique, et que les peuples lui obéissent. On voit que Jacob, il a reçu une révélation prophétique, puis il a annoncé lui aussi la venue du Messie que le monde attendait dans cette époque-là. Un autre point qu'on voit aussi encore aussi frappant, que des dieux se choisit qui veut, comme qui veut, même si on n'est pas nécessairement descendant de la lignée d'Abraham. Ça parle dans la même un petit peu plus tard dans les temps qu'une personne qui vivait lui aussi dans le pays de Canaan, dans ces territoires-là. C'est un prophète de Dieu. Il s'appelait Balaam. Puis c'est un païen, lui, avec, puis il a prophétisé, lui aussi, à propos du Messie qui est à venir. C'est fort, parce que Dieu se sert de ses prophètes pour annoncer la venue du Messie. Dans Nombre 24, 17, il a dit, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Il perce les flancs de Moab, puis il abat tous les enfants de Seth. On voit encore que Dieu parle là, pas à 100% tout bien clair, puis il n'y a pas gros de détails dans ces prophéties-là, mais on le sait que ça parlait de la venue du Messie qui était venu dans le monde. Je finis avec un dernier verset. Par ces prophéties-là qui ont été données par les prophètes, Dieu préparait la venue de son Fils. Le but là-dedans, comme je vous disais tantôt, c'est Dieu révèle sa pensée, il révèle ce qu'il aime, ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, mais aussi, il révèle Jésus. C'est ce que ça nous confirme dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, il dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ, qu'il est appelé apôtre, il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Puis là, c'est l'autre phrase que je veux qu'on retienne. C'est l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, Yeshua, né de la postérité de David selon la chair. On voit que les gens du Nouveau Testament, on est là pour annoncer l'Évangile, puis cet Évangile-là, c'est l'Évangile qui avait été promis, la bonne nouvelle qui a été promis par les prophètes dans l'ancien temps. C'est quoi la bonne nouvelle? Le Messie s'en vient. C'est à ça la bonne nouvelle. Le celui qui va percer les flancs de des autres peuples, c'est le Shiloh, le Pacifique. Puis dans d'autres passages, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Puis là, dans l'autre passage, c'est celui qui va écraser la tête du serpent. Tous les passages annonçaient la venue de l'envoyé de Dieu, qui est son Fils, Jésus-Christ. On va faire une prière. Pour que tous ceux qui entendent ce message-là, peu importe ce que vous avez fait auparavant, mais si aujourd'hui vous commencez à comprendre que Dieu veut que vous engagiez face à lui pour le recevoir comme votre sauveur, mais comme votre Seigneur, pour que vous puissiez être pardonné de vos péchés, puis de mettre votre foi dans l'envoyé de Dieu qui est Jésus, on va faire une prière ensemble pour vous permettre de donner votre vie au Seigneur. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit. Pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu, il est là, puis il nous rouvre les bras, puis il nous accueille. Il vous pardonne, il nous donne son Saint-Esprit. Vous pouvez maintenant savoir que vous appartenez à Dieu. Marchez avec le Seigneur, servez le Seigneur. Restez ferme dans la foi que Jésus a tout accompli pour vous. Obéissez au Seigneur. Aller dans une église où se prêche la parole de Dieu. Puis un jour, on se retrouvera ensemble dans la vie éternelle. Amen. Amen.